dans cette expérience interne de rechercher la vérité. Nous cherchons ensemble la vérité. C'est une expérience interne. J'aime quelqu'un. Socrate disait, avant de commencer de parler et de discuter, es-tu mon ami? J'aurais dû vous poser la question au début. Si tu es mon ami, je peux parler. Si tu n'es pas mon ami, c'est pas la peine. On va discutailler indéfiniment et ça servira à rien. Es-tu mon ami? Expérience interne. Et on comprend très bien ça. Quand on enseigne dans un lieu où tout le monde peut venir, comme dans une université, on a toujours quelques-uns qui sont là en opposition. On le sait. On les cerne vite parce que on voit tout. Hein. Surtout avant. Maintenant, je vois moins bien dans le fond. Alors, ceux qui sont moins, qui suivent moins bien, peuvent se mettre dans le fond, n'est-ce pas? Je dis ça pour les heures contemplatives. N'est-ce pas? Alors, parce que ceux qui sont devant, on voit tout de suite s'ils suivent, pas, s'ils bavardent entre eux, ça tout se voit. Comme quand on prêche, on voit les gens qui regardent leur montre. Alors moi je m'arrête quand c'est comme ça. Quand quelqu'un regarde sa montre, il faut respecter qu'il regarde sa montre. Pendant ce temps-là, il n'écoute pas, donc on respecte. Et on se tait. Alors au bout d'un petit moment du jeu, ils s'aperçoivent qu'on a bien vu ça. Non, ils sont un peu plus gênés. L'expérience interne est liée à l'expérience externe. Dans ma vie, j'ai une secousse, un accident d'automobile. Ça arrive. Il y a un choc extérieur. Répercussion intérieure. Et cette répercussion intérieure provient du choc extérieur. Dans l'amour, ben, y a quand même une personne qui a suscité en moi cet amour. Il y a donc eu un regard d'abord, je ne sais pas, une parole, un visage. Vous voyez, quand vous regardez dans l'écriture, la rencontre de Jacob avec Rachel. Elle a levé son voile, il l'a regardé. Il l'aima. Jésus qui regarde le jeune homme riche, le jeune homme, il l'aima. permanence de façon plus générale. Parce que vous ne parlerez pas de l'intériorité de votre digestion. Hein? C'est pas très intérieur. Vous ne parlerez pas beaucoup de l'intériorité de l'imagination. Parce que l'imagination, c'est la folle du logis. Immanence et intériorité. intéressant. Parce que les mots sont les véhicules de la pensée. Et donc c'est intéressant de savoir si un terme, le mot psyché, en grec, ne provient pas des philosophes. Il provient des traditions religieuses. Tradition de l'Inde. Et par l'Inde, la Grèce. Maintenant, c'est à peu près établi. Ne sont pas miens. Ça va pas le 1. Donc quand vous dormez, essaie de montrer, d'introduire dans la philosophie le terme psyché. Et depuis Platon, le terme psyché, l'âme, fait partie de la philosophie. Aristote a continué Platon, pas étonnant, ayant été 20 ans à l'école de Platon, et que ça l'intéressait. Il en retient et continue de distinguer l'âme et le corps. Oui, alors, il y a un petit... Il y a là quelque chose d'historique qui est très intéressant à regarder. C'est quand on vous dit, parce que ça se répète, quand on vous dit que la distinction de l'âme et du corps, c'est la distinction d'Aristote. Non, dites d'abord que c'est Platon. Deuxièmement, quand on dit que c'est une distinction grecque, dites non, c'est des traditions de l'Inde. C'est très important. Parce que les traditions de l'Inde, tout le monde les respecte. Ça. On s'incline devant les traditions de l'Inde. Je comprends, c'est très respectable. Et quand saint Thomas reprend donc la distinction de l'âme et du corps, il ne la reprend pas du tout à cause des traditions de l'Inde. Le terme psyché, il y a le souffle. Regardez dans la Genèse, qui est quand même un livre plus ancien que les Sapiens. Même si c'est pas tout à fait les plus anciens, on parle que Dieu façonna le corps de l'homme et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'âme, c'est le souffle de vie. C'est intéressant de savoir que de fait, on retrouve dans la tradition judéo-chrétienne, d'une certaine manière, d'une autre façon que dans la tradition de l'Inde, distinction de l'âme et du corps. Il faut se rappeler, et je crois que c'est très important de se rappeler, que le mot âme provient des traditions religieuses et que ce n'est pas un mot philosophique au sens propre, c'est-à-dire ce n'est pas un mot que le philosophe a découvert, mais c'est un mot que le philosophe a intégré dans sa recherche philosophique en considérant les traditions religieuses pour savoir si ces traditions religieuses exprimaient quelque chose d'authentique, de réel ou quelque chose de purement symbolique, purement poétique. Alors, je reviens au dialogue de Lausanne, le soir, avec tous ces jeunes merleau-pontiens, en disant pas de distinction entre l'âme et le corps. Alors, puisqu'il faut toujours dans un public voir quelqu'un pour que le langage soit réaliste, je m'adresse donc à cette jeune fille qui avait souri devant la distinction de l'âme et du corps. Tout simplement, est-ce que pour vous, il y a une distinction entre votre expérience que vous faites maintenant? On discute philosophie. On essaie de comprendre ce problème important, capital pour moi, de la distinction de l'âme et du corps. Est-ce que c'est la même chose pour vous de faire un effort de connaissance philosophique et de dormir? Il y a eu un grand silence. Elle n'a pas osé dire que c'était pas la même chose, dormir ou faire de la philosophie. Mais dis-moi, pour moi, il y a une différence. Quand je fais de la philosophie, je ne dors pas. Je peux continuer dans mon sommeil de faire de la philosophie, ça m'arrive. Mais c'est pas la même chose. C'est une philosophie très particulière. C'est une philosophie pleine d'images, de mains extraordinaires du reste. refusez de me répondre. Alors je dis, voyez, vous n'osez pas me répondre parce que vous savez très bien que si vous me répondez, vous acceptez la distinction de l'âme et du corps. Renard rougit, et puis c'est tout. Puis arrivé à minuit, l'épouse du professeur Thévenin arrive avec du thé, des petits gâteaux. Ce qui arrive quand on a des cours qui durent un peu longtemps, n'est-ce pas? Quand c'est une heure, on vous laisse prendre le thé ou le café en dehors du cours. Là, il pense ça. Alors, évidemment, tout de suite, la discussion philosophique descend de 1. t'aimes l'amour, elle va tout expliquer. Et donc, c'est pas la peine d'opposer l'esprit. Il n'existe que des faits positifs. Comme sérieux. possible quand on désire capter les forces, capter les énergies. Le pacte avec le démon, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour avoir l'argent. Alors ça, c'est très sérieux. L'attitude religieuse, c'est un petit peu périmé. Je sens qu'ils aiment bien ça parce qu'ils sont traditionnels. Alors c'est un petit peu trop traditionnel. Tandis que l'euro, il y a moins une aventure. Et c'est intéressant de sentir le climat dans lequel on est. Sentir si ce climat, ce patrimoine de culture actuelle, qu'est-ce qu'il a comme ingrédient? Analyser ces ingrédients. Puisque le philosophe cherche la vérité, mais il vit dans un milieu. Et il vit plus ou moins indépendant de ce milieu. Parce qu'il est plus ou moins critique de cela. Il peut se laisser entièrement conduire et déterminé par le milieu. Il peut lutter contre. Mais lutter contre, c'est encore être influencé par ce milieu. Celui qui est anti donne un certain lien avec ceux devant lesquels il s'oppose. Alors, comprenons que la distinction de l'âme et du corps est venue des traditions religieuses, comme au cœur des traditions religieuses. Elle a commencé à être discutée à partir du siècle des Lumières. Avant, elle existait. En Grèce, elle a toujours existé. Tout le temps. Des traditions religieuses. Et ça faisait partie, j'allais dire, du patrimoine humain. Un titre différent que l'art, mais un titre particulier. Maintenant, avec le positivisme, c'est rejeté. Alors la distinction de l'âme et du corps doit-elle être rejetée? Puisque elle a été transmise par les traditions religieuses. Or, ces traditions religieuses sont rejetées. Donc, n'en parlons plus. Raisonnement très simple. C'est pas un raisonnement philosophique. Le raisonnement philosophique, c'est de dire ces traditions religieuses nous ont transmis cette distinction de l'âme et du corps. Ça, c'est sûr. C'est un fait. Ça a été porté, purifié par des grands philosophes. Platon, Aristote. Personne n'oserait dire que Platon et Aristote, ça signifie rien dans la formation philosophique. Et le néoplatonisme, jusque 2 siècles après Jésus-Christ, en Grèce, et dans la formation européenne. Ça a été transmis par les pères de l'Église, par les théologiens. Les théologiens ont accepté la distinction de l'âme et du corps jusqu'au milieu de ce siècle. Mais maintenant, certains hésitent. Vous voyez, c'est intéressant de faire une petite enquête historique rapide. En gros, c'est ça. Alors, la question philosophique se pose avec une très grande acuité. Dois-je rejeter cette distinction de l'âme et du corps? Aujourd'hui, est-elle périmée? Et de montrer que cette distinction de l'âme et du corps s'impose à l'analyse philosophique. Et je dis bien à l'analyse philosophique, parce que je ne touche pas directement mon âme, tandis que je touche mon corps. Mon âme, selon les traditions religieuses, si elle existe, elle est invisible. Tandis que le corps est visible. question est une question fondamentale pour savoir l'homme vivant. Autrement dit, alors, je rejoins ce que je disais ce matin. Autrement dit, je peux faire cette description philosophique de toutes mes activités humaines. La grande activité humaine étant le travail. Je crois que si je compte le nombre d'heures dans ma vie où j'ai travaillé et le nombre d'heures dans ma vie où j'ai aimé ou le nombre d'heures dans ma vie où j'ai joué ou le nombre d'heures dans ma vie où j'ai dîné, je crois que le travail l'emporte largement. Ça, c'est le sérieux de la vie humaine. Parce que dès qu'on n'est plus au travail, on en invente un. C'est par tous les moyens, surtout l'épouse, et c'est par tous les moyens de trouver un petit travail pour l'époux. Comme ça, il me laissera tranquille. Tandis qu'autrement, je l'aurai tout le temps sur mon dos. Ça, c'est bien évident. Alors, on essaie de trouver un travail bien, quelque chose d'intéressant, mais qui peut peut-être aussi aider. On va dire des relations, on voit très bien ça. Le travail sauf si on est en extase. Mais l'extase... bien décrire toutes les activités de l'homme. C'est pas suffisant pour le philosophe. Parce que le philosophe veut comprendre. Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces activités? Et à propos des activités du travail, on avait posé la question au moment où il y a eu l'élection pontificale de Jean XXIII. Alors il y avait de ses oncles, de ses cousins qui étaient dans le midi comme maçons italiens. Alors on leur posait la question: quel est le violon dingue de votre oncle? On est fatigué de ne pas pouvoir travailler. Pour moi, c'est le signe, un travail qui nous repose, qui nous détend, qui nous équilibre. Ah, ça, c'est vraiment notre travail. Et ça exprime tout de suite quelque chose de très important. Le dilettantisme, il ne se repose pas par là. Le travail unifie l'homme de façon étonnante. Un travail intellectuel bien fait. Un travail manuel, artisanal bien fait. Il y a des travaux, ça il faut bien le dire, qui fatiguent l'homme et qui le fatiguent terriblement. Parce que ce sont des travaux qui ne sont plus très humains. La matière sur laquelle on travaille n'est plus matière. Parce que le travail implique la transformation de la matière. Mais une matière qui est une matière réelle. Alors, je puis très bien décrire le travail, la pensée, l'amour, la marche, le jeu. Ça veut dire faire la route. Je ne veux plus de ce travail. Ça m'assomme d'aller à l'école. J'aime bien mieux être libre. Ou bien alors, on travaille de son côté. Il y a un refoulement terrible par rapport au travail. Et on ne veut plus du tout réfléchir sur le sens de notre vie. Je crois que c'est par là que le problème de l'âme doit être posé aujourd'hui. Le sens de notre vie. Pourquoi travailles-tu? Pourquoi manges-tu? Pourquoi tu pries? On a perdu le sens de nos diverses activités vitales. Et ayant perdu le sens de nos diverses activités vitales, on les rejette comme des occupations inutiles, ennuyeuses, qui sont un poids. Si je retrouve le sens de telle activité, le travail, si je retrouve le sens de la pensée, de la réflexion, le sens de l'amour, je dirais, mais c'est moi qui pense. Et en pensant, en aimant, je crée de nouvelles relations. Et c'est tout un aspect d'épanouissement que je connais. Je ne connaîtrais pas autrement. La première fois dans sa vie qu'on a aimé, on a été bouleversé. Premier amour. Était là, ah, tout était changé. Même si on ne pouvait pas l'approcher, elle est là. C'est curieux, ça. Hein, le sens de nos occupations. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui unifie ma vie et toutes mes opérations vitales? Qu'est-ce qui unifie ma vie dans ma pensée philosophique et dans mon petit déjeuner du matin? Qu'est-ce qui unifie ma vie dans le fait de dormir et le fait de travailler? Qu'est-ce qui unifie ma vie? Qu'est-ce qui fait que tout ça, c'est moi? Parce que tout ça, j'en suis la source. J'en suis la source. C'est moi qui décide de travailler. C'est moi. C'est moi qui aime. Ah, vous voyez, le moi qui apparaît. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce moi? Ce moi qui apparaît.